Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Cette semaine, soit du 17 au 24 octobre, a lieu la Semaine Missionnaire Mondiale, un rendez-vous annuel avec comme point d'orgue la Journée Mondiale des Missions, dimanche prochain donc. Dans son message de cette édition 2021, le pape François déclare qu'il y a un besoin urgent de missionnaires d'espérance. La mission est parfois dans l'Église un sujet de division quant à la manière, mais tous s'accordent à dire quelle est l'essence même de l'Église. L'histoire de l'évangélisation commence par une recherche passionnée du Seigneur qui appelle et qui veut s'engager avec chaque personne, là où elle se trouve. Un dialogue d'amitié explique encore le pape François, coup de projecteur ce matin sur le diocèse d'Albi et sur trois missionnaires d'espérance de notre temps. Semaine missionnaire mondiale, c'est Témoins du Tarn, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, nos missionnaires d'espérance, pour reprendre les mots donc, du pape François. Laetitia Duréo, vous êtes mariée, mère de 4 enfants et vous êtes partie en mission avec un organisme qui s'appelle la Fidesco dans le Lesotho en Afrique australe. Bonjour.
Oui, bonjour Daniel.
Jean-Marc Vigrousse, vous êtes prêtre du diocèse d'Albi. Vous êtes parti en Fidei Donum, comme on dit dans le jargon, au Pérou puis au Chili. Et vous êtes actuellement à nouveau dans le Tarn, à la paroisse Notre-Dame, mère de l'église à Groyer. Bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindra un petit peu plus tard, pris dans les embouteillages, André Agnew, qui est prêtre de nationalité béninoise, actuellement Fidei Donum pour le diocèse d'Albi et qui est dans le pays carmosain. Tout un programme, c'est donc autour de Carmo. Alors on va faire l'émission, on va dire, à l'envers, dans l'ordre initialement prévu, puisque celui qui, on va dire, est complètement, on va dire, dans la fiche de poste de la Semaine Missionnaire Mondiale, c'était André Agnew, puisque c'est d'abord, on va dire, un coup d'encouragement à tous ceux qui quittent leur pays pour se mettre au service de la mission, et aujourd'hui c'est lui qui n'est pas chez lui et en mission actuellement donc en France. Mais comme il est pris dans les embouteillages, alors on va commencer avec vous, Laetitia Duréo, honneur aux femmes et à la jeunesse. Vous êtes donc partie au Lesotho, en famille, dans ce pays d'Afrique australe. Vous êtes rentrée récemment. Alors on a envie un petit peu de faire connaissance avec vous, c'est ce qu'on va commencer par faire, et puis voir quelle a été votre mission, quel est votre regard sur la mission. Mais je vous avais demandé, comme aux autres invités, de parcourir même rapidement le message du pape François, donc pour la Journée mondiale des missions 2021, dont le titre est « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ». Est-ce que vous vous retrouvez déjà dans cet extrait de la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, « Il nous est impossible de nous taire »
Oui, évidemment que cette parole me touche personnellement, car pour moi, c'est une exhortation qui reprend un peu celle que nous avions entendue de la bouche du pape Jean-Paul II. « Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ». C'est une exhortation, en fait, qui révèle la force de la rencontre du Christ dans nos vies. Cette rencontre que l'on fait avec Jésus nous remplit, en fait, d'un feu, d'un élan qui nous pousse à sortir de nous-mêmes pour voir témoigner de ce feu et le partager. Donc, oui, c'est quelque chose qui nous parle, oui.
On y reviendra sur ce message, hein. Entre autres, il y a vraiment des beaux passages, je recite celui que j'ai dit en introduction mais que j'ai peut-être lu trop vite. L'histoire de l'évangélisation commence par une recherche passionnée du Seigneur qui appelle et veut s'engager avec chaque personne là où elle se trouve, engager avec chaque personne là où elle se trouve, un dialogue d'amitié, ça aussi, c'est dans ce message du pape François pour la Journée mondiale des missions 2021. Alors vous donc, vous êtes mariée, mère de famille, je l'ai dit, vous aviez déjà eu l'habitude de partir un petit peu à l'étranger avec votre mari, puisque vous aviez vécu 3 ans à La Réunion et 2 ans à Mayotte, et puis au milieu d'une vie de famille déjà bien remplie, vous vous êtes dit, allez, on va partir. Alors avant ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être en quelques mots le profil que vous avez de chrétien ? Est-ce que vous étiez familier, par exemple, de la mission ? C'est quelque chose que vous connaissiez ou c'était un peu un mot étranger ?
Alors, c'est vrai que tous les deux, mon mari et moi, avons eu la chance de grandir dans des familles catholiques pratiquantes. Donc nos foi étaient déjà nourries très tôt. Comme vous l'avez dit, nous avions eu la chance aussi tous les deux, indépendamment, de vivre des expériences ailleurs, ou souvent en Afrique ou à Calcutta par exemple, ou souvent dans des pays pauvres certes, mais très riches aussi par leur foi et par la joie qui émane de ces peuples, de ces populations. Donc, quand nous sommes mariés, ayant tous les deux des professions médicales, nous avions pour projet commun de partir un jour en mission pour se rendre simplement disponible et pourquoi pas le faire même avec nos enfants. Donc c'est ce qui nous a amené à réfléchir ce projet, oui.
Alors c'est arrivé, vous avez fini par vous décider. Qu'est-ce qui fait que vous êtes décidé à partir, donc c'était en 2019, pourquoi à ce moment-là, si ce n'est pas indiscret ?
Non, ce n'est pas du tout indiscret. Nous n'avons pas attendu de partir en mission pour être missionnaire, ça vous pouvez vous en douter, parce que je crois que tout chrétien l'est par vocation. Il est impossible de nous taire hein, quand on est chrétien. On sait très bien que ce message, il est à partager parce que c'est une rencontre qui nous rend profondément heureux. Donc, nous étions déjà très engagés dans notre paroisse du Tarn à Lavaur, mais on avait comme un appel brûlant au fond du cœur à vivre de façon un peu plus radicale cette mission. Parce qu'en fait, parfois, on est content de servir, on donne 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures dans la paroisse ou ailleurs, et puis, mais on ne quitte pas vraiment son confort. On donne un peu du superflu, vous voyez, un peu comme la petite mendiante qui pose ses... Enfin, non, pas comme la viandante, plutôt comme les pharisiens qui critiquent la petite veuve qui dépose ses piécettes. Et en fait, on avait envie de donner tout, c'est-à-dire de quitter notre confort, quitter nos repères et quitter aussi notre réseau pour être totalement disponible à la mission. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers Fidesco en 2019. En février 2019, nous avons donc pris la décision de partir. Alors avec Fidesco, ce qui est un peu particulier, c'est que vous avez un an de discernement et quand vous dites oui, vous ne savez pas où vous allez être envoyé ni ce que vous allez faire. Et ce qui était très drôle, c'est que 3 mois après février, fin mai, voilà, nous avons appris que nous étions envoyés au Lesotho pour 2 ans avec nos enfants.
Alors venons-y, peut-être le Lesotho, vous allez nous le présenter brièvement. Je croyais, moi, que c'était naïvement, pour le moment, et par manque de culture sûrement, que c'était une province d'un pays. Mais en fait, c'est un petit état, donc sur des hauts plateaux dans l'Afrique australe. Si vous deviez nous emmener un tout petit peu là-bas, à quoi ça ressemble c'est...
Alors, si ça vous permet de déculpabiliser, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent où est le Lesotho. Beaucoup nous parlent d'Amérique du Sud. Ben non, en fait, c'est effectivement un tout petit pays situé en altitude, entre 1400 mètres d'altitude et plus de 2000 mètres, qui est enclavé dans l'Afrique du Sud. C'est un pays de culture pastorale, donc beaucoup, beaucoup de bergers, pas de barrières, c'est magnifique, c'est vraiment très sauvage. Ça a été très préservé également de l'apartheid, en raison, je pense, de sa géographie et de son indépendance. C'est un petit royaume et les gens sont profondément gentils et profondément croyants.
Alors là-bas, vous êtes retrouvés là-bas, donc on vous l'avait dit, vous aviez tous les deux une profession médicale, votre mari était médecin et puis vous aviez une formation de dentiste. Quand on est envoyé en mission là-bas, on y va pourquoi, ai-je envie de dire? On y va pour annoncer l'évangile ou on y va pour rendre service? Voilà, quelle était votre lettre de mission?
Oui, alors Fidesco a pour politique, entre guillemets, de se dire que, voilà, c'est très beau de témoigner de l'Évangile, et évidemment que c'est une ONG catholique, donc on ne met pas notre foi sous le boisseau, loin de là, mais néanmoins, il nous demande d'apporter des compétences professionnelles, car l'idée, c'est de développer des projets, de favoriser le développement durable de projets dans des pays en voie de développement, avec des partenaires d'église. Donc, en ce qui nous concerne, nous étions envoyés, mon mari et moi, auprès des Sœurs de la Charité d'Ottawa, qui sont très, très implantées au Lesotho. Et nous étions effectivement au service d'un petit hôpital. Mon mari travaillait en tant que médecin. À la base, il est médecin généraliste, mais il a très, très vite, de par ses compétences échographiques, fait plus que des échographies. Il est devenu le spécialiste de l'échographie au Lesotho. Et moi, j'étais certes dentiste avant, mais il n'en avait pas besoin sur place. Et j'ai donc été gestionnaire de projet. J'ai managé une biscuiterie, boulangerie sur place. Voilà.
Et vos enfants, j'ai envie de dire, parce que si on part en mission en famille, on imagine que les enfants sont pas là juste dans le décor.
Ah non, c'est sûr, c'est quelque chose qui implique toute la famille. D'ailleurs, Fidesco nous le dit, hein, vous apportez bien sûr vos compétences professionnelles, mais votre témoignage de chrétien, et vous savez bien que le témoignage aussi d'une vie de famille, et de vie de famille chrétienne par la prière ou par le modèle du couple aussi, touche les gens, ça c'est sûr. Voilà, donc nos enfants ont été impliqués dans notre discernement. On leur a demandé aussi s'ils étaient motivés pour partir et vivre cette expérience un peu décapante. Je vous dirais qu'il faudrait interroger nos enfants, mais au bout de 2 ans, ils n'ont qu'une envie, c'est de repartir un jour en mission quand ils seront plus grands. Les enfants, vous savez, poussent n'importe où. Ils ont une énorme capacité d'adaptation et ils ont su voir ce qui les rendait heureux, que ce soit en France ou que ce soit là-bas. Ils nous ont donné de belles leçons parce qu'ils vivent vraiment dans l'instant et ils voient toujours le meilleur, en fait.
En tout cas, je peux vous dire que Jean-Marc Vigrousse, lui, il connaissait le Lesotho. Je ne sais pas s'il a envie de partir en mission là-bas, mais j'étais bluffé. Dans le message du pape François, donc à l'occasion de la prochaine journée mondiale des missions, donc je rappelle dimanche prochain, il y a entre autres ce passage: en ce temps de pandémie, face à la tentation de masquer et de justifier l'indifférence et l'apathie au nom d'une saine distanciation sociale, la mission de la compassion, capable de faire de la distance nécessaire un lieu de rencontre, de soins et de promotion, est urgente. Vous avez été en fait dans ce pays au moment de la pandémie. Comment résonne cette phrase ou cette invitation du pape François pour vous ?
Et c'est vrai qu'elle nous parle, elle nous touche beaucoup, car en rentrant, on se rend compte à quel point, enfin en rentrant en France, à quel point la Covid, enfin la pandémie a pu diviser les gens. Nous l'avions moins ressenti en Afrique, c'est vrai. Je vous avouerai que quand on est parti, on n'avait pas connaissance de ce qui allait nous arriver, parce que il y a eu le Covid, bien sûr, mais il y a eu d'autres difficultés. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on ne sait pas toujours ce qui va arriver, sinon on n'oserait pas. Oui, c'est vrai que, à un moment, Fidesco, en raison des recommandations du ministère des Affaires étrangères, a été conseillé de récupérer tous ses volontaires sur place en mission. Et il y a donc beaucoup d'ONG qui l'ont fait par esprit de précaution, je pense. Fidesco, il a le tact de nous laisser choisir. Et ça a eu lieu au bout d'un an de mission. Donc c'était finalement la période où on sentait enfin prendre en main nos missions, enfin efficaces. Et ça nous est apparu comme un contresens, malgré l'inconnu, hein, bien sûr, hein, l'inconnu des suites sanitaires. On a vraiment pris le choix, enfin le temps du discernement, et nous avons fait le choix de rester sur place pour servir nos frères, car mon mari étant médecin, on s'est dit c'est vraiment à ce moment-là qu'ils auront encore plus besoin de soins. Et voilà, on a osé, et je pense que maintenant, avec du recul, on a fait le bon choix.
Alors, parmi toutes les choses que vous m'aviez partagées en préparant l'émission, c'est que, évidemment, vous avez aussi énormément reçu là-bas. Peut-être pouvez-vous nous dire, justement, à l'occasion de la pandémie, dans quelle situation étaient les personnes que vous fréquentiez, et puis quelle on va dire, bravoure, héroïsme, ou simplicité, ou joie de vivre, vous avez pu constater qui seraient pour nous des belles leçons.
Oui, alors concernant les autos en général, l'Afrique en général peut-être, ou les pays pauvres, oui, c'est vrai que la pandémie a encore plus mis à mal ces sociétés qui vivent au jour le jour et qui n'ont rien, hein, juste pour donner, illustrer un petit peu, il n'y avait pas du tout d'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, des jeunes, déjà l'espérance de vie où les autos est de 56 ans, je crois, si je ne m'abuse, et donc ce qui n'est pas très élevé, avec beaucoup de tuberculose, plus de la moitié de la population qui est VIH, donc déjà une comorbidité assez lourde, et donc forcément que le Covid n'a pas amélioré la situation sanitaire. On a vu des gens qui, même au portail du campus de l'hôpital, qui tombaient morts, parce qu'en fait, les gens arrivaient dans un état extrême, et encore, quand parfois ils arrivaient dans des situations qui auraient pu être curables en France, en fait, on n'avait pas du tout les moyens. Donc, mais ça, j'allais vous dire, l'Afrique, elle le connaît, elle n'a pas attendu le Covid, voyez, pour côtoyer la mort ou le risque. Et je trouve que leur force, c'est surtout d'avancer au jour le jour. Et comme ils n'ont rien, ils savent qu'ils dépendent quelque part de la providence de chaque jour. C'est vrai qu'ils impliquent Dieu en tout, que ce soit, ça peut être le Christ, mais ça peut être aussi les esprits quand on est animiste ou autre. Et c'est ça qui nous a beaucoup touchés. Parce que ils ont une résilience par rapport aux imprévus qui nous marquent, nous, occidentaux, qui avons l'habitude de tout contrôler. Oui, ça c'est sûr.
Bah, ça fait un premier bel aperçu de la mission. On va faire une première pause et puis ça ne vous empêchera pas peut-être de réintervenir. On va retrouver nos autres invités, donc Jean-Marc Vigrousse, qui lui donc, est prêtre du Tarn et qui est parti, pour rappel, donc, à l'étranger. C'était récemment au Chili. Et André Agnew, donc qui est notre prêtre d'origine béninoise, de Fidei Donum, actuellement dans le diocèse d'Albi, et qui est enfin arrivé.
Emmanuel Pella.
Semaine missionnaire mondiale, c'est Témoins du Tarn. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous autour du plateau, Laetitia Duréau, mariée et mère de famille, partie en mission au Lesotho en Afrique australe. André Agnew, qui est prêtre d'origine béninoise, enfin d'origine de nationalité béninoise et qui est actuellement prêtre fidei donum pour le diocèse d'Albi. Et Jean-Marc Vigrous, qui lui donc est du diocèse d'Albi et est parti fidei donum, donc entre autres au Chili. Alors, on va laisser André Agnew atterrir et on va donc petit à petit s'acheminer vers le cœur de ce qu'est la semaine missionnaire mondiale. En tout cas, c'est lui, d'une certaine manière, qui aujourd'hui est le plus en mission. Jean-Marc Vigrous, vous êtes prêtre du diocèse d'Albi, vous êtes parti à deux reprises, au Pérou et au Chili. Alors, si on commence comme à chaque fois, enfin, comme pour Laetitia Duréau, un petit peu par donner la parole au pape François. Il a une phrase, entre autres, que vous avez peut-être vue. « Tout comme à l'époque des premiers chrétiens, le moment actuel de notre histoire n'est pas facile non plus pour évangéliser », reconnaît le souverain pontife dans son message. Vous diriez que, ici comme ailleurs, c'est ce que vous avez pu constater ou pas ?
Alors, non, je dirais...
Question piège,
même que...
parce que vous allez dire que le pape François a tort, donc vous commencez.
Non, je ne vais pas. Mais je dirais que quand même... L'annonce de l'évangile dépend beaucoup quand même de la population où on se trouve, de sa culture, de sa réactivité. Alors en Amérique du Sud, j'ai rencontré plutôt des populations très religieuses, quoi, c'est-à-dire beaucoup plus naturellement tournées vers Dieu que nous, hein, ici en Europe. Donc des gens pour qui la présence de Dieu est déjà quelque chose de très quotidien, de très ancré. C'est ce que disait Laetitia aussi, hein, c'est-à-dire des gens qui justement s'en remettent beaucoup plus à la Providence, à chaque instant, et donc sensibles à ce que l'on parle de Jésus-Christ, à ce que l'on célèbre des sacrements, enfin voilà, c'est-à-dire plus naturellement récepteur peut-être.
Donc c'est chez nous que ce n'est pas facile non plus, comme pour reprendre les mots du pape François.
Voilà, moi je dirais que je trouve qu'ici, c'est justement, il me semble que j'ai affaire à des gens qui sont, comment dirais-je, alors peut-être parfois certains un peu blasés et qui pensent que le discours de l'Église est un discours déjà connu, un peu usé, Ou alors des gens pour qui, bon, c'est une hypothèse sympathique hein, de parler de Dieu, mais voilà, ça ne remet pas en cause beaucoup le train-train de l'existence. Quoi. Alors c'est peut-être plus difficile ici, oui.
Alors vous êtes un enfant du pays, donc du Tarn, vous avez 58 ans, vous êtes prêtre depuis 1991, donc depuis 30 ans. Vous avez fait vos études, donc votre bac à Castres, après vous avez été en études dans le pays, et puis donc vous êtes devenu prêtre. Sur votre profil, même question peut-être qu'à Laetitia, la mission, ça faisait partie un petit peu entre guillemets du logiciel de votre vie chrétienne. Étant jeune, étant enfant, adolescent, jeune adulte ou séminariste ou pas trop ?
Si, moi je dirais que naturellement, lorsqu'on participe à la vie de l'Église, il est impossible d'échapper à toute cette dimension missionnaire, alors que ce soit la mission au quotidien dans son quartier ou bien à l'étranger. Alors, en choisissant de devenir prêtre diocésain, j'ai croisé des collègues, des aînés qui étaient partis. Et nombreux dans le Tarn, qui avaient constitué depuis des dizaines d'années toute une histoire, avec des liens en Afrique, en Amérique du Sud.
Des prêtres qui, la plupart du temps, sont revenus aussi, vous m'aviez précisé ça. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres, par exemple, l'Aveyron envoyait beaucoup de missionnaires parfois en Asie, mais on ne revenait pas en général.
Exactement, des prêtres diocésains. Alors, bon, je peux citer des noms ici, je ne sais pas. Moi, j'ai été en paroisse avec Pierre Trouche, par exemple, qui a été au Cameroun, avec Gaston Roustit, qui avait vécu au Tchad, avec Pierre Sauré, qui évoquait le Cameroun, etc. Quoi. Donc, Jean Crosse et le Niger, par exemple. Donc, si vous voulez, ça fait partie du paysage du prêtre diocésain. Hein. Peut-être que c'est très marqué aussi dans les congrégations religieuses, mais voilà. Donc ce n'est pas quelque chose d'inconnu, de totalement absent. Et je crois que ça a mûri assez naturellement en me disant, tiens, pourquoi pas toi aussi partir un temps comme ça à l'étranger.
Alors justement, qu'est-ce qui vous a pris ou quel a été l'appel, si ce n'est pas indiscret? Parce que, à vous entendre, voilà, vous aviez bien intégré que la vie chrétienne est missionnaire. On imagine que c'est le cas de tout prêtre. Hein. Pourquoi ce besoin de partir à l'étranger, de vous mettre au service à l'étranger pour vous mettre quelque part plus en mission, si j'ai bien compris ?
Alors, si vous voulez, mon désir de fond, c'est suivre Jésus. Et il m'a semblé que, en quittant mes sécurités, enfin mon petit monde, en m'aventurant vers de l'inconnu, je le suivrais de plus près. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors évidemment, ça prend des couleurs personnelles à chaque fois, mais c'est le désir, hein, suivre le Christ et vouloir témoigner davantage de lui avec peut-être plus d'intensité. D'exprimer aussi...
Parce qu'on part pour ça ou parce qu'on lâche tout, qu'est-ce qui fait que c'est plus, on va dire, entre guillemets, plus radical ou plus...
Non, c'est pour Jésus. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, bon, en étant prêtre, je fais déjà un don. Si vous voulez, c'est le don fondamental, radical de ma vie, quoi. Hein. Voilà, me mettre au service du Christ, vouloir, comment dirais-je, animer, faire vivre son Église. Peut-être j'ai ressenti cet appel à vouloir manifester ça d'une façon plus forte encore. Voilà, si vous voulez, en sautant dans l'inconnu, on est obligé de dire que c'est bien la foi, que c'est bien le Christ qui m'anime et que c'est pour lui que je vis, quoi. Alors après, bon, voilà, évidemment, ça prend une forme un peu particulière, quoi.
Alors vous êtes parti deux fois, une première fois au Pérou, de 2002 à 2010, et puis donc au Chili, de 2016 à 2020. Si on revient simplement sur votre dernière expérience donc au Chili, vous étiez donc à Santiago, dans un quartier populaire. Enfin, quartier populaire, en fait, c'était un bidonville, Lega, grand bidonville. À quoi ressemblait le lieu où on vous avait envoyé ?
La Legua.
Legua, pardon.
Voilà, c'est le nom du quartier. Il y a environ 20 000 habitants. Il est géographiquement dans le centre de la grande agglomération de Santiago, qui compte 7 millions d'habitants environ. C'est un quartier aux petites rues, aux maisons basses, en rez-de-chaussée. Les murs sont souvent en bois, les toits en tôle. Bon, c'est pas un bidonville, enfin, il y a quand même du tout à l'égout, il y a un réseau un peu de voirie qui se tient, quoi. Alors, c'est un quartier très marqué par le trafic de drogue, de cocaïne en particulier, et par la violence urbaine, c'est-à-dire qu'il ne passait pas, disons, 2-3 jours sans que l'on entende des coups de feu, sans qu'il y ait des blessés ou des morts. Donc, et puis ensuite, une vente de cocaïne, mais à chaque, enfin, dans une maison sur deux, quoi. Enfin, c'est vraiment bon. C'est ce qui marque surtout le quartier. Alors, c'est un quartier donc très stigmatisé de Santiago, qui a d'ailleurs une longue histoire derrière lui et qui a beaucoup résisté à la dictature du général Pinochet, hein, qui dure de 1973 à 1990. Et dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Donc c'est un pays, enfin un quartier un peu rebelle, on dirait, de forte identité, voilà, et dont il est difficile de sortir un peu. C'est-à-dire que les jeunes qui y grandissent ont un peu plus de mal à s'insérer ensuite dans la vie chilienne, par exemple, par leurs études, etc. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous y faisiez, vous, en fait? Vous avez été envoyé là-bas avec quelle aide de mission aussi?
Ce quartier correspond à une paroisse, je suis prêtre diocésain, j'y ai trouvé un collègue français d'ailleurs qui était là depuis longtemps, et donc je me suis mis au service de la paroisse, quoi, de la même façon que je peux le faire ici, en animant de la catéchèse pour enfants, la pastorale des jeunes, visitant des malades. Et puis surtout, en fait, en essayant de rencontrer la population, quoi, en traînant dans les rues, en causant avec les gens qui sont là. Parce que, enfin, il faut voir aussi, il y a une vie urbaine beaucoup plus intense, disons, que dans une ville française, quoi. Il y a toujours du monde dans la rue, il y a toujours quelqu'un qui passe, quelqu'un avec qui parler. Il se passe toujours quelque chose, en quelque sorte. Donc il suffit d'être là, à un angle de rue, de parler autant avec le guetteur des vendeurs de drogue qu'avec la mamie qui va faire ses courses, etc. Et là, j'ai beaucoup appris, et je pense aussi, comment dirais-je, bien manifester ce pourquoi j'étais là, quoi, c'est-à-dire ce contact avec la population, ce témoignage au quotidien très simple.
Vous m'avez dit, le moment où j'ai peut-être été le plus missionnaire, c'est quand je regardais des matchs de foot au bistrot, à boire des bières avec tout le monde.
Exactement.
Qu'est-ce que vous entendiez par là, en fait?
C'est-à-dire, si vous voulez, le désir d'un missionnaire, ou le mien en tout cas, c'est aussi d'appréhender une culture, l'épaisseur humaine, quoi, de la vie des gens que je rencontre, hein. Bon, au Pérou, j'ai essayé de parler quechua, par exemple. Au Chili, il faut s'intéresser au foot, sinon on est à côté d'un pan énorme de la vie de la population. Mais tout autant de savoir qu'est-ce que l'on chante, qu'est-ce qu'on écoute, quelle a été ensuite aussi l'arrière-fond culturel de ces gens-là, à travers leur lutte, etc. Donc les rencontrer comme ça, gratuitement, et effectivement être mêlé à eux. Alors ça peut être à l'occasion de, voilà, être spectateur d'un match de foot lors d'une Coupe du Monde.
Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que vous aviez déjà cette idée quelque part de la mission? Parce que, dans le jargon, on peut dire que c'est un peu la pastorale de la rencontre, c'est-à-dire, on va rencontrer les gens gratuitement, et puis se crée une relation d'amitié, et puis on va dire, si le sujet de la foi ou des questions existentielles viennent, elles émergent. Mais bon, c'est autre chose parfois que d'abord le désir brûlant que d'annoncer, que de vouloir...
Oui, non, c'est-à-dire, si vous voulez, je ne suis pas parti non plus comme ça, à partir de rien, quoi. Je suis prêtre diocésain, ça me marque. Et c'est avec ça, pardon pour la voix, là, que je suis parti en mission, c'est-à-dire autant à Albi... ou actuellement à Groyer, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui préoccupe mes voisins, quelles sont leurs joies, leurs peines, et comment je me mêle à eux. Alors après, il y a tout l'aspect, évidemment, du service que je peux rendre à travers la célébration des sacrements, à travers la catéchèse, par exemple, la visite aux malades. Mais dans un premier temps, vous voyez, je suis à Groyer. C'est une ville qui a un passé industriel sur le cuir, par exemple. Eh bien, en ce moment, il y a les journées du cuir. Là, hier, j'ai été visiter une usine de produits chimiques, là, qui fait des teintures et du traitement dans la tannerie. Bon, voilà, pour m'imprégner un petit peu du milieu, connaître la culture locale. Donc, si vous voulez, ce que je vivais déjà, ou en étant aumônier de lycée, en essayant de m'intéresser à ce qui fait la culture, à ce qui faisait la culture des ados, mettons, il y a 20 ans, eh bien, c'était la même démarche, quoi.
Laetitia Duréau, je reviens juste à vous parce que dans une lettre de mission que j'avais eue entre les mains, ou en tout cas quelque chose qui rapportait un peu ce que vous aviez vécu dans les autos, il y avait à la fin de ce mot « être avec », c'était en gras écrit dans le texte. Est-ce à dire que dans le fond, pour vous, la fine pointe de la mission, c'était ça aussi ?
Oui, je partage ce que disaient les propos du père Jean-Marc qui disait qu'en fait quand on part en mission, que ce soit chez nous ou ailleurs, les gens n'attendent pas forcément un beau discours. C'est-à-dire que la mission, c'est pas juste les beaux propos de l'évangile qu'on clamerait en place publique. C'est surtout en fait un témoignage de vie, et pour cela, pour ce faire, il faut se rendre proche de ces gens. Et comme l'a dit le père, quand on part ailleurs, c'est nous l'étranger. Et donc ça suppose en fait de mieux comprendre, de mieux se rapprocher des gens. Donc ça peut être en partageant une bière, en jouant au foot ou autre, pour leur montrer en fait qu'on est on est proche, on est frère en fait. On est frère par notre humanité, par nos aspirations provenances. Et donc c'est vraiment être avec. Et en fait parfois le témoignage de vie qui va toucher, ou le témoignage même missionnaire qui va toucher les gens, on ne l'attend pas forcément là où nous on l'attendrait. Nous par exemple en fin de mission, les gens venaient nous remercier pour le témoignage de vie de prière qu'on avait en famille, et le témoignage de vie de couple aussi unie. On arrivait à dire le chapelet tous les jours avec nos enfants. On allait aussi à la messe pendant 2h30 en sessoutou, on comprenait pas un mot. Et pourtant, on était fidèles à toutes les cérémonies. Et ça, je sais que ça a beaucoup, beaucoup touché les Bassoutou, oui.
Jean-Marc Vigrousse, avant qu'on fasse une deuxième pause et puis qu'on donne la parole enfin à André Agnew, vous avez vécu un moment un peu historique, si j'ai bien compris, c'est la visite du pape François en janvier 2018.
Oui, effectivement.
Vous pouvez nous en dire un mot quand même, tout le monde ne vit pas des pages d'histoire comme ça,
oui,
un pape latino-américain
en
Amérique latine, ça doit secouer, non c'est...
J'avais eu l'occasion de rencontrer le cardinal Bergoglio et puis ensuite j'ai pu célébrer l'Eucharistie avec le pape François. Alors oui, bien sûr, ça a été un moment important. Bon, d'abord, à Santiago, ça a été très suivi, très porté, ça a bien répondu. J'ai participé à la grande messe, si vous voulez, dans le parc O'Higgins de Santiago, à une rencontre avec les jeunes. Et puis, je suis allé, comme tous les badauds, au bord du boulevard, voir passer la papa mobile, quoi. C'est un voyage historique aussi parce que, si vous voulez, c'est le début, en fait, d'une brisure terrible pour l'Église chilienne, oui. Autour des abus sexuels commis par les membres du clergé, quoi. Alors, donc ça a été tout un basculement, quoi. C'est un moment charnière, sûrement, dans l'Église chilienne. Bon, et disons que ça a été un voyage, je pense, difficile pour le pape lui-même. Et... comment dirais-je, qui a laissé un goût amer même un peu au Chili, quoi. Enfin, voilà, c'est dans ce sens-là. Ça n'a pas été si simple.
Et oui, c'est vrai. Ouais. Et puis même le voyage du retour, dans le voyage du retour, l'ancien nonce apostolique de Washington a envoyé, on va dire, un tir au pape François. Bref, c'est une autre histoire. Ça, on rappellera peut-être.
Par contre, j'ai vécu aussi un autre événement historique. Le 18 octobre 2019, 1,5 million de personnes dans la rue, enfin dans la semaine qui a suivi, pour demander un changement de vie, de modèle économique, de constitution pour ce petit pays du Chili. Et c'est un processus qui est toujours en cours.
Et ils doivent aujourd'hui encore...
Il y a une assemblée constituante qui, d'ici quelques mois, rendra sa copie, c'est-à-dire une constitution nouvelle, en essayant d'intégrer davantage de droits sociaux, de droits pour les populations indiennes, de protection des ressources naturelles, etc. Enfin, beaucoup de choses. Voilà.
On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver André Agnew, notre prêtre qui nous vient du Bénin et qui est actuellement en France. Il est arrivé en plus récemment, le 13 août dernier.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Semaine missionnaire mondiale, c'est Témoins du Tarn, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient. Cette semaine missionnaire a donc lieu chaque année, et cette année c'est donc du 17 au 24 octobre prochain, avec en point d'orgue donc cette journée mondiale des missions. Avec nous Laetitia Duréau, qui est partie en famille en mission dans le Lesotho, en Afrique australe. Jean-Marc Vigrous, qui est prêtre du diocèse d'Albi, qui lui est parti donc au Pérou puis au Chili. Et donc André Agnew, prêtre d'origine, enfin de nationalité béninoise, actuellement dans le Tarn. Alors vous êtes un peu le témoin modèle, j'ai envie de dire, puisque la semaine missionnaire, c'est d'abord ceux qui partent, et nos deux autres invités sont eux rentrés. Si vous deviez, on devait commencer par faire connaissance un petit peu avec vous et avec le Bénin, pour les nuls en géographie, où est le Bénin, à quoi ça ressemble, il y a combien d'habitants, où est-ce que vous avez grandi là-bas?
Oui. Alors, le Bénin se situe entre deux grands pays, le Nigeria, peut-être pas grand en superficie, mais grand surtout numériquement. Le Nigeria a 190 millions d'habitants. Et le Togo, qui est un tout petit pays aussi, ben, qui a quand même une dense population, à peu près 10 millions. Alors qu'ils sont à peine 56 000 km². Et au nord, nous avons deux autres pays aussi connus, le Niger. Le Niger qui est connu à cause de son uranium et le Burkina Faso. Donc le Bénin a 112 600 km², donc à peu près c'est le cinquième de la France en superficie.
Combien d'habitants vous avez?
11 millions d'habitants. Voilà, et donc et le Bénin a deux grandes villes importantes, et donc il y a Cotonou, qui est à peu près de 2 millions d'habitants, et la capitale, qui est Porto Novo, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas Cotonou, c'est plutôt Porto Novo, la capitale. Alors moi, je viens de Cotonou, moi.
Alors vous êtes né donc en 1963, c'est ça, hein, vous
c'est
avez
ça,
58
c'est
ans,
ça, ouais.
Vous avez été ordonné en 1993, donc ça va pas faire pas loin de 30 ans de vie de prêtre, enfin un petit peu moins. Donc vous avez été vicaire, vous m'avez dit, dans le monde rural, vous êtes venu un moment en France pour faire des études à l'Université catholique d'Angers, puis après vous avez enseigné au grand séminaire donc à Cotonou, c'est ça, hein?
À Ouida.
À Ouida.
À Ouida, qui est une ville historique. Historique de par sa position géographique, parce que Ouida aussi c'est au bord de l'Atlantique, et c'est de Ouida que sont venus les premiers missionnaires. Les tout premiers missionnaires sont arrivés au Bénin par Ouida. Alors pour une raison historique, le Bénin ne s'appelait pas Bénin au départ. Le Bénin s'appelait Dahomey. C'est en 1975 que le Bénin a changé de nom et est devenu ce que nous savons aujourd'hui, Bénin. Donc, j'ai été professeur dans le seul grand séminaire de la sous-région. Jusqu'en 1973, il y avait un seul séminaire dans la sous-région qui regroupait certains pays comme le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire.
Alors vous, le Bénin aussi, vous m'avez dit, donc il y a à peu près 28% de chrétiens, enfin catholiques, 20% sont d'autres obédiences et 25% à peu près de musulmans, et le reste c'est des personnes animistes. Il y a une tradition missionnaire aussi au Bénin, c'est-à-dire qu'il y a déjà, vous connaissiez un peu comme le père Jean-Marc Vigrous, d'autres frères prêtres ou des aînés qui étaient partis en mission, en Europe, en France, c'est un peu, on va dire, dans l'air du temps au Bénin, ou vous faites figure un peu d'exception de partir comme ça à l'étranger?
Non, je crois que le Bénin a quand même... la conférence épiscopale du Bénin a quand même envoyé plusieurs prêtres dans d'autres pays comme la France, comme l'Espagne. Certains pays, certains prêtres béninois sont envoyés en Espagne, en France, en Allemagne et dans d'autres pays africains aussi. Je me souviens quand il y avait une crise de vocation en Guinée, la Guinée de Sékou Touré, il y avait un besoin de prêtres, et donc il y avait beaucoup de prêtres béninois qui allaient en Guinée, par exemple servir l'église qui est en Guinée. Et ceci dit, à l'intérieur même du Bénin aussi, il y a beaucoup de prêtres, par exemple, qui... Parce qu'on ne le pense pas. On pense que la mission est souvent à l'extérieur, mais la mission aussi est à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de prêtres de Cotonou, Cotonou donnant beaucoup plus de prêtres que l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de prêtres qui quittent Cotonou pour aller au nord du Bénin.
Alors malgré tout, c'est vrai que ça, comment dire, ça reste un témoignage fort hein, de voir donc un prêtre béninois arriver. Vous êtes arrivé donc en août dernier, même si on entend que vous êtes déjà venu en France. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez sauté le pas ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette expérience missionnaire ? C'est quoi ? C'est votre évêque qui vous a dit « j'ai besoin de quelqu'un » ou c'est vous qui vous êtes proposé ?
En fait, je crois que le désir de la mission, comme l'avait dit le père Jean-Marc, est presque inné hein, dans tout le prêtre. C'est presque notre première vocation. Mais je peux dire que déjà quand j'étais jeune, bien avant d'aller au séminaire, j'avais déjà cette idée un peu en moi parce que je participais à beaucoup de camps, ce qu'on appelle les camps missions, où nous quittons notre ville de Cotonou, pour aller dans certains milieux ruraux, pour pouvoir apporter l'évangile, parler de Jésus, déjà. Donc, on avait déjà un peu... Ce terreau était déjà présent en nous. Alors, du coup, l'initiative d'aller en mission n'est pas venue directement de mon évêque. L'initiative est venue pour la première fois de moi-même. Je devrais aller dans un autre pays qui était très loin,
En
Nouvelle-Calédonie, c'était en 2004. Bon, il y a eu certaines situations qui ont fait que bon, j'ai pas pu aller. Donc cette idée-là toujours m'habitait. Donc j'ai dû en parler à mon évêque et qui finalement, ayant une opportunité avec le diocèse d'Albi, m'a demandé si je pouvais aller servir cette église dans le Tarn.
Alors vous êtes arrivé donc il y a pas longtemps, vous êtes arrivé en août dernier, vous êtes donc à la paroisse Saint-François d'Assise et Sainte-Claire à Carmaux, pour être tout à fait précis, donc de pays carmosin, j'ai découvert cette expression. Donc on imagine que vous prenez un peu vos marques, on a envie de vous dire, est-ce que vous savez où vous mettez les pieds, André Agnew? La France, c'est sûr que c'est un pays, on va dire, largement déchristianisé. Certains disent maintenant il faut presque réévangéliser la France. Hein. On est à quoi, 5% de pratiques peut-être ou de. En tout cas, si on interroge les Français, le nombre de Français qui croient que le Christ est vraiment ressuscité, ça fait plus beaucoup. Ça vous fait pas peur ?
Non, pas du tout. Je crois que j'ai eu l'occasion de dire à certaines personnes que ce que je vois ici, mais je l'ai vu peut-être dans un échantillon beaucoup plus restreint, dans certaines parties de l'Afrique aussi où les gens n'ont peut-être pas entendu parler de Jésus. Et bon, ils sont pas nombreux. Et donc, on avait.
Vous parlez quoi en fait, entre guillemets, de zone animiste, c'est ça?
Beaucoup plus animiste. Bon, ils savent. Je crois que la première intervenante,
Laetitia Durand.
Laetitia nous avait déjà parlé de un peu de. C'est vrai, de l'attente des Africains en général, c'est des gens qui ont déjà ce désir du suprême en eux. Et donc, il n'y a pas beaucoup de difficultés pour parler de Dieu en Afrique. Mais ici...
Y compris avec donc des personnes animistes
Y compris avec des personnes animistes, ouais. Parce que déjà, il y a déjà un terreau très favorable à la réceptivité d'un être transcendant. D'un être qui est suprême, qui dépasse tout le monde, puissant. Donc, on a déjà un peu ce désir, un peu comme en Chili aussi. Voilà. Mais ici, je crois que le père Jean-Marc l'a très bien dit, c'est vrai, on a l'impression qu'on est pratiquement dans la première communauté chrétienne. C'est comme si on veut reprendre l'évangélisation.
Après, avec une certaine lassitude parfois, ou une forme d'aquabonisme.
Non, moi, je ne peux pas avoir d'appréhension. Pour l'instant, moi, j'arrive là.
Ah, je ne veux pas vous décourager. Hein.
Moi, j'arrive.
Je fais mon boulot, c'est tout.
Non, si, j'arrive. Et donc, je vois déjà quand même que, qu'il y a quand même des oreilles attentives. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même des oreilles attentives. Oui, les personnes ne sont peut-être pas nombreuses, ceux qui attendent pour l'instant. Mais on sait que c'est pas nous ne sommes pas les premiers acteurs de l'évangélisation. Le premier acteur, enfin, moi je parle en tant que prêtre. le premier acteur de l'évangélisation, ce n'est pas nous-mêmes. Enfin, pour moi, c'est Jésus lui-même. Et donc, on le laisse faire par son esprit. Nous sommes là, nous sommes des instruments de ses mains.
Alors, est-ce que vous pouvez commenter cette expression que j'ai citée au début de l'émission, et puis on finira peut-être par ça, je vous demanderai un petit peu chacun comment ça résonne. Mm-hmm. Le pape François donc dit qu'il y a un besoin urgent de missionnaires d'espérance. Alors, ça peut paraître être un terme un peu générique, hein, mais on imagine qu'il fait ça aussi dans le contexte de la Covid, qui a frappé quand même le monde entier, et cette journée étant mondiale. Des missionnaires d'espérance qui soient capables de rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout seul. Comment vous le comprenez ?
Oui, je crois que, étant donné que le pape est venu aussi dans un milieu, comme l'a rappelé le père Jean-Marc, dans un milieu... Je crois argentin, hein.
Oui, ouais. Argentin.
Voilà, argentin. Donc, a quand même vu un certain nombre de choses. Donc, il a vécu un certain nombre de choses. Et donc, il parle même de sa vie, pratiquement. Donc, personne ne peut, à l'heure actuelle, personne ne peut se sauver. Nous sommes embarqués. Nous sommes tous embarqués dans un même bateau. Donc, et on a besoin quand même des gens dont la vie parle, hein, pour pouvoir sortir des grandes situations dans lesquelles nous sommes actuellement. Donc, des courageux.
Laetitia Duréau, comment ça résonne cette phrase chez vous, pour finir ? Des missionnaires d'espérance qui soient capables de rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout seul, peut-être au regard aussi de votre expérience.
Oui, c'est une phrase qui me touche beaucoup. C'est vrai, quand on est rentré en France, on redécouvre plutôt son pays, sa culture, avec des nouvelles lunettes, hein. Et ce qui nous frappe, c'est effectivement cet athéisme ambiant, ce consumérisme, cet individualisme, matérialisme, comme si l'homme était autosuffisant. Enfin, l'homme, en tout cas occidental, s'était coupé de Dieu et il croit qu'il peut se sauver tout seul, mais c'est un leurre. Et d'ailleurs, la pandémie nous montre bien que même un tout petit virus peut mettre à mal toute cette croyance-là. Et en fait, c'est pour ça que quand on revient de mission, nous, en tant que croyants, on a cette espérance à apporter au monde, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas par le matériel ou par les choses qu'on va pouvoir donner du sens à nos vies. L'Afrique nous le montre, les pays pauvres, ils ont une joie incroyable que nous avons perdue. Ils ont aussi un sens dans leur société, dans leur sens de la famille, dans leurs valeurs, dans leur croyance, dans leur foi, qui nous bouscule et qui nous remet en fait la boussole sur le nord. Et je crois que nous, en tant que missionnaires, on a à témoigner de ce sens que le Christ nous donne, et ça doit être porteur de joie et d'espérance pour les autres. Oui.
Jean-Marc Vigrousse, le mot de la fin.
Eh bien, moi, je dirais qu'il faut essayer de dépasser les peurs qui referment les gens sur eux-mêmes, quoi, hein, se sauver tout seul, individuellement, mais même en petits groupes, quoi. Donc, c'est un appel à toujours plus d'ouverture, à plus de justice, d'engagement contre la violence, les déchirures, les divisions. Enfin, je le verrais dans ce sens-là, quoi, hein, essayer d'élargir un peu l'espace de nos tentes.
Eh ben, merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été trois visages de ces missionnaires d'espérance que le pape François appelle, on va dire, de ses voeux, et qui nous invite aussi à contempler, en tout cas, votre témoignage. C'est un dernier extrait que je lirai de ce message du pape François pour la Journée mondiale des missions de dimanche prochain. Contempler leur témoignage missionnaire nous encourage à être courageux et à prier avec insistance le maître de moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est un message à retrouver et à lire. Un grand merci à vous.
Merci.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.